RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Le final de cette 13e étape qui se profile à l'horizon puisque nous sommes à moins de 20 km de l'arrivée avec toujours nos 5 hommes de tête mais qui ne possèdent plus qu'une minute 44. Cela sera-t-il suffisant pour décrocher la victoire d'étape dans quelques minutes à Rodez? C'est toute la question qu'on se pose et on va tout de suite parier sur RMC.
Les paris RMC, Tour de France.
Avec Benjamin Ramagé qui nous a rejoint. Salut Benji.
Salut Christophe, salut à tous.
Alors on peut encore parier, là il reste quelques secondes, faut faire vite hein, puisque nous sommes à moins de 20 km de l'arrivée. Quels sont les cotes des principaux favoris?
Et le favori ça reste Peter Sagan, 2,30 devant Nathan Haas qui est échappé seul en tête à 4,50. Je vous rappelle les pronos rapidement de la Dream Team. Lucho avait joué Cocard, Bourgui avait mis Sagan et Federigo, Cyril Boasson-Hagen et Koenig. Toi Christophe tu avais mis Degen Kolb et j'avais mis Dan Martin.
Très bien, messieurs, vous changez vos pronostics. Fred, tu n'as pas donné de favori.
Dans le titre de l'épisode aujourd'hui, si. Géniès s'offre Rodez haut la main, Rodéo la main. Alexandre Géniès, originaire de Rodez. Il est toujours dans l'échappée, le coureur de la FDJ, membre de cette échappée à 6. Il connaît les routes par cœur. Ce serait très beau, c'est très romantique, bien sûr, mais ce serait magnifique que Alexandre Géniès, le coéquipier de Thibaut Pinot à la FDJ, s'impose sur ses terres.
Georges, un petit favori pour toi?
Sur la moto.
Mon favori ce sera Peter Sagan, parce qu'on dit Sagan. Hein. Ouais. J'ai demandé à mon collègue Pierre Ekten qui a demandé auprès de l'équipe Tinkoff Saxo, c'est Peter Sagan. Donc
Sagan.
Voilà, moi je donne le vrai nom du favori du jour.
Très bien, merci Georges, merci Benji. On te retrouve tout à l'heure à 19h50 pour débriefer tout ça.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Sagan va-t-il revenir sur les 5 hommes de tête, Fred? Ils sont toujours devant, mais leur avant continue de fondre comme neige au soleil. Il n'y a plus beaucoup de neige ici à Rodez d'ailleurs. Hein.
Alors ils sont 6, c'est Nathan Haas, l'Australien de l'échappée, avait faussé compagnie à ses compagnons d'échappée il y a quelques instants. Il vient d'être repris par donc ces 3 Français, Cyril Gauthier pour Europcar, Alexandre Géniès pour FDJ et Pierre-Luc Perrichon, le coureur de l'équipe Bretagne séché, Nathan Haas qui est rentré dans le rang en compagnie de De Gendt le Belge et Kelderman le Hollandais. Vous avez là la composition de ce groupe qui s'est extrait du peloton dès le 6e kilomètre ce matin à la sortie de Muret. 1 minute 30 d'avance pour ces 6 là à 16 kilomètres de l'arrivée. Ce sera très compliqué, les routes sont particulièrement vallonnées à l'approche de Rodez et surtout le peloton veille au grain avec à l'avant du peloton maillot jaune, toujours très conséquent aujourd'hui sur cette étape de transition, les équipes de Degen Kolb et Sagan, à savoir Giant Alpecin et Tinkoff Saxo.
Rodolphe Massé à Moscou, pas de médaille aujourd'hui pour les escrimeurs français.
Non, pas de médaille et les deux équipes qui terminent sur des défaites. Alors les sabreurs masculins qui disputaient la petite finale pour la médaille de bronze n'ont pas du tout existé face à la nation numéro 1 mondiale dans cette discipline, l'Allemagne s'impose 45 touches à 30 et puis les Françaises ont terminé leur match de classement sur une défaite également, 45 à 43 contre les Italiennes, les Françaises emmenées par Cécilia Berder qui échoue donc à la 6e place.
Merci Rodolphe, à demain pour d'autres médailles on l'espère. Eric Salio, lui est à Londres au Queens pour le match entre la France et la Grande-Bretagne, quart de finale de la Coupe Davis. Les Français qui mènent 1-0. Joe Wilfried Tsonga a perdu le premier set face à Andy Murray. Est-ce qu'il se refait la cerise dans la deuxième manche, Eric?
La réponse est oui, parce qu'il a le break au début de ce deuxième set, il mène 2-1, il a profité peut-être d'un instant de décompression d'Andy Murray qui avait remporté le premier set 7-5, mais Joe qui est un guerrier a attaqué cette deuxième manche, vraiment le mort aux dents, il a signé un 9-1, 9.1, donc il s'est détaché assez facilement, 2-0, et maintenant le but du jeu c'est de tenir son engagement, auquel cas Français et Britanniques seraient à une manche partout, mais on n'est pas là, on est au début du deuxième, mais Joe mène 2-1, 30-15, peut-être 40-15, donc 30-1, attention à la réaction d'Andy Murray qui va vouloir effacer ce handicap très vite.
À tout à l'heure Eric, 15 km 400 de l'arrivée, Lucho a fait le final tout à l'heure, alors Lucho, est-ce que tu penses que les 6 échappés pourront parvenir à rallier la ligne avec un tout petit peu d'avance sur le peloton, ou ça roule trop vite derrière?
Ah, ça va être difficile quand même, parce que ça fait un petit peu longtemps qu'ils sont déjà devant, échappés, et puis en plus les équipes des sprinteurs commencent à pointer le bout de leur nez à l'avant du peloton, et donc ça roule de plus en plus vite et l'écart est en train de s'affaiblir au fil des kilomètres. Donc je vois mal comment aujourd'hui l'arrivée ne se fera pas au sprint avec les meilleurs. Peut-être que Greg Pell risque d'avoir des difficultés dans le final au niveau du sprint, puisque c'est en légère montée quand même, une bonne petite bosse. Après il y a quand même les Chagan, il y a Coquart et tout, qui peuvent éventuellement tirer leur épingle du jeu dans la dernière ascension pour l'arrivée.
Le peloton qui a accéléré depuis quelques minutes, oui. Fred, et un homme qui souffre à l'arrière de ce peloton, oui. C'est Jean-Christophe Perrault.
Jean-Christophe Perrault, deuxième du dernier Tour de France, le leader de l'équipe AG2R La Mondiale, qui a chuté il y a une cinquantaine de kilomètres alors que des cassures se produisaient dans le peloton. C'était assez agité. Il a touché une roue, Jean-Christophe Perrault, et il a surtout tâté du bitume fortement. Les deux coudes touchés et désormais bandés. Il est en galère à l'arrière du peloton, à 15 kilomètres de l'arrivée. La selle dans le cul, comme disent les coureurs, en bec de selle, en train de résister. C'est la même position qu'il avait l'an passé quand il tâchait de résister aux attaques et au rythme endiablé de Vincenzo Nibali en haute montagne. Et bien là, la bravoure dont il faisait preuve en montagne, il est en train de la mettre au profit de sa survie à l'arrière du peloton sur du plat.
Cyril, 14 km 500 de l'arrivée, l'avance qui continue de fondre, 1 minute 10, plus beaucoup d'espoir pour nos 6 hommes, et notamment pour Alexandre Geniez, le régional de l'étape, qui aurait tant aimé remporter une victoire ici chez lui.
Oui, c'est évident, mais là nous arrivons dans une dernière difficulté qui doit faire à peu près 3 à 4 km, et c'est vrai que dans cette ascension, le peloton va continuer à reprendre du temps, et je pense que rapidement ils vont être obligés de baisser les bras.
Il y a des dégâts dans cette petite côte, Fred, avec des coureurs de l'échappée qui sont en train de lâcher, notamment Alexandre Geniez.
Et oui, c'est Thomas De Gendt, le Belge de l'équipe Lotto Soudal, qui a accéléré à l'avant. Derrière, Nathan Haas lui a pris la roue avec Wilco Kelderman, et le seul Français qui s'accroche, c'est Cyril Gauthier, le Breton de l'équipe Europcar. Alexandre Geniez fait de la résistance, mais Nathan Haas en remet une, il se teste. L'homogénéité n'est plus du tout ce qu'elle était il y a quelques kilomètres. C'est désormais le Hollandais Kelderman, 24 ans, qui découvre le Tour de France, qui vient d'accélérer, pris en chasse par Cyril Gauthier. Cyril Gauthier qui nous refait le coup d'Oyonnax l'an passé. Il est habitué à ces longs raids avec des finales tortueux. Cyril Gauthier qui s'accroche. Ils sont trois à l'avant de l'échappée maintenant. Kelderman, Gauthier et Thomas De Gendt qui tentent de rentrer. Le rêve vient de s'évaporer pour Alexandre Geniez, originaire de Rodez.
Il reste peut-être Gauthier qui s'accroche. Le qui revient à une minute. Georges Quirino est à l'avant, devant ce groupe qui vient d'exploser. Georges, ça monte dans cette petite côte, c'est sévère comme grimpette là.
Oui, la route s'élève un petit peu. Oui, on est dans une petite côte où il y a beaucoup de monde qui s'est positionné à gauche et à droite de la route. On est dans l'ombre pour une fois qu'on n'est pas en plein cagnard depuis le début de cette étape. Et derrière nous, on voit apparaître Wilco Kelderman. Voilà, avec dans sa roue Cyril Gauthier, le jeune breton de la formation, le petit coureur breton de la formation Europcar, qu'on voyait grimaçant et qui n'arrêtait pas de regarder ses compagnons d'échappée. Hein, depuis tout à l'heure, il se laissait décrocher pour tous les regarder, pour voir comment ils allaient. Il avait certainement un peu préparé son coup. En tous les cas, pour l'instant, il est bien collé dans la roue de Kelderman. Et on voit également Thomas De Gendt qui est en troisième position, le Belge de la formation Lotto Soudal, dans cette petite ascension.
Ils sont trois désormais avec 1 minute 5 d'avance. On va voir si ces trois-là parviennent à garder quelques mètres d'avance sur la ligne d'arrivée. C'est pas gagné pour nos trois échappés. 13 km de l'arrivée. On se retrouve dans un instant pour le final. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
11 km 600 de l'arrivée de cette 13e étape du Tour de France sous une chaleur accablante, et nos hommes de tête, nos trois hommes de tête qui viennent de voir leur avance passer sous la barre des 1 minute, Fred.
Oui, 11 km 500, bientôt le sommet de la dernière difficulté du jour, en tout cas un long faux plat. Ensuite, le profil en direction de Rodez sera descendant avant la montée finale de 500 mètres assez prononcée, mais le profil de la fin d'étape peut être à l'avantage des trois échappés échappées, trois rescapés de la grosse échappée du jour qui est partie au kilomètre 6 ce matin à l'initiative de Cyril Gauthier, le breton de l'équipe Europcar, qui fait partie du trio de tête avec 55 secondes d'avance maintenant à 11 km de l'arrivée. Gauthier avec le Hollandais Wilco Kelderman, maillot jaune et blanc de l'équipe Lotto Jumbo NL sur les épaules, suivi par le maillot rouge de Thomas De Gendt, belge de la formation Lotto Soudal. Ces trois-là continuent de bien s'entendre. 54 secondes au dernier pointage à 11 km de l'arrivée.
Cyril Gauthier a-t-il une chance, Cyril Guimard, de décrocher la victoire aujourd'hui? C'est un bon puncher, Gauthier.
Cyril Gauthier, prénommé exactement. Cyril par ses parents en hommage à Cyril Guimard. La fibre bretonne.
Merci.
Même s'il est des Côtes d'Armor et non pas du Morbihan, c'est quand même pas la même chose.
Ah non, mais c'est la Bretagne. N'importe quoi. Alors, je vais essayer de répondre à la question quand même. Mais pour qu'il l'emporte, il faudrait que le peloton ne revienne pas.
Oui.
Or, il y a encore. Le peloton n'est plus qu'à 50 secondes, ou les échappés ont encore 50 secondes. Alors, il faut se méfier parce que, à partir du moment où on va basculer là, dans à peu près 200 ou 300 mètres pour les hommes de tête, eh bien, on descend jusqu'à la flamme rouge. Alors c'est pas une descente de col, mais on a une pente douce qui pourrait éventuellement être à l'avantage des hommes de tête.
Très bien, le tennis, Eric Salio, Joe Wilfried Tsonga opposé à Andy Murray dans la deuxième manche, où en est-on ?
1-7-0 donc pour la Grande-Bretagne, 7 jeux à 5, 3 jeux à 2 dans le deuxième set pour les Français. Joe est au service, mais il y a 15-40 et c'est un jeu qui avait très mal débuté pour le Français, qui a pris une sévère gamelle. Il est retombé lourdement un peu sur le dos et c'est la deuxième fois que ça lui arrive et on sent qu'il est bon, il est pas KO, mais je pense qu'il a des petits bobos, donc c'est pas de bon augure ça. Vous savez qu'ils ont des picots sous les chaussures, mais le gazon est assez glissant et il va devoir sauver une deuxième balle de break, mais avec une confiance un peu atténuée. Voilà, bien sauvé la deuxième balle de break. 30-40, encore une balle de break à effacer pour Joe, mais c'est vrai qu'il a dû se faire peur sur cette deuxième gamelle. Donc on va peut-être suivre cette troisième balle de break si tu veux, Christophe, qui peut permettre aux Français de sauver un peu provisoirement, d'écarter la menace. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour le Français. Puis voilà, c'est deuxième gamelle, il doit se dire, est-ce que je m'engage à fond, parce que si c'est une troisième gamelle, c'est toujours embêtant. Donc il est pas, il marche un peu sur des œufs. Allez, 30-40, il va essayer de s'appuyer sur sa première balle, elle ne passe pas. Attention, un deuxième balle de service, Murray qui évidemment va prendre ses chances. C'est un garçon très intelligent tactiquement, il n'y a pas mieux sur le circuit. Et il va essayer de faire courir Joe, deuxième balle, elle est dedans. Oh, le retour est presque gagnant, voilà. Le débreak est fait pour Andy Murray, trois jeux partout. Tout est à refaire dans cette deuxième manche pour l'équipe de France.
Tout est à refaire, les Français qui mènent, on vous le rappelle, 1-0 grâce à la victoire de Gilles Simon tout à l'heure. 9 km de l'arrivée, ce qui continue de fondre pour nos trois échappés, dont le Français Cyril Gauthier.
Non, oui, ça sent le roussi pour Cyril Gauthier. Et Thomas Wilco Kelderman, le Hollandais. 37 secondes au dernier pointage, à moins de 9 km de l'arrivée. Le profil est descendant en direction de Rodez, mais ce n'est pas d'une descente dont il s'agit, c'est plutôt d'un long faux plat descendant, et l'organisation du peloton est en train de condamner le trio de tête. Ce sont les Giant Alpecin de John Degenkolb qui va passer, c'est sûr, la difficulté, mais aussi la dernière bosse. Les Giant Alpecin qui mènent grand train, relayé par les Tinkoff Saxo de Sagan, mais aussi les MTN Kubeka de Boasson-Hagen. Trois équipes contre trois coureurs. Le duel est déséquilibré.
41 secondes, ça continue de descendre, Cyril, mais tu nous le disais il y a quelques minutes, ça va descendre désormais, donc ils vont peut-être pouvoir conserver quoi, une trentaine de secondes avant le dernier kilomètre, et ensuite c'est en montée.
Il faudrait absolument 30 secondes, ouais, parce qu'il y a quand même 550 mètres, presque 600 mètres à près de 10%. Le peloton va aller très très vite à cet endroit-là. Il faudrait surtout que cette descente soit très sinueuse. Alors Lucho, toi qui l'as fait, est-ce que c'est sinueux ou des grandes lignes droites?
Non, c'est des lignes droites. C'est très large, il y aura aucune incidence pour les coureurs. La seule incidence qu'il peut y avoir pour les échappés, c'est que ça va se réduire à moins de 30 secondes à un kilomètre de l'arrivée. C'est pratiquement, à mon avis, ça sera déjà rejoint depuis un moment.
Georges, sur la moto RMC, toujours au contact des trois hommes de tête. Georges.
Les trois hommes de tête, oui, qui se battent là, mais on est sur des routes très larges, on est sur une trois voies. C'est Thomas Degen qui a les mains en bas du guidon et qui donne désormais le relais à Cyril Gauthier, tête baissée, concentré sur son effort, dans un effort de contre-la-montre presque pour le petit breton sur ces longues lignes droites. voir tout au bout l'avant-garde, le museau du peloton qui a en ligne de mire ces trois échappées, succession de ronds-points également dans ce final. On est sur des routes à phase descendante pour Cyril Gauthier, la bouche grande ouverte avec Kelderman et Degent juste derrière nous, sur des routes très larges jusqu'à l'arrivée peut-être.
Et pourtant, pour l'instant Cyril, les trois hommes ne se désunissent pas, il n'y a pas de tentative d'attaque. Ouais, il faut rester évidemment très unis, c'est leur seule chance de réussite pour une victoire d'étape pour l'un des trois.
Oui, non, s'il commence à se regarder, c'est mort, quoi. Il faut absolument qu'ils roulent à fond jusqu'aux 500 mètres. Après, s'ils sont toujours devant, bah, ils joueront leur chance, toujours en se retournant quand même pour voir où se situe la tête de peloton. Mais l'écart, l'écart continue de descendre. Le match est déséquilibré quand même, même si c'est un faux plat descendant.
Ouais, et je sais pas si ça s'entend si bien que ça entre ces trois-là, Fred.
Ça discute, ça s'encourage, évidemment. Tout le coureur cycliste connaît cette situation où l'on arrive à trois, à quelques kilomètres d'une ligne d'arrivée, on reproche toujours à l'autre de ne pas en faire assez et on l'encourage à tirer des bouts droits un peu plus longs que ce qu'il fait. Il n'y a pas, dans ces circonstances-là, à 6 km de l'arrivée avec une trentaine de secondes d'avance, il n'y a pas à s'économiser. 30 secondes d'avance pour le trio de tête Gauthier, Kelderman et De Gendt sur une avant-garde du peloton où une quatrième équipe vient de faire son apparition après les Giant Alpecin, les Tinkoff Saxo, les MTN Kubeka. On aperçoit les Australien Doreca Greenedge pour la pépite australienne du sprint en boss, j'ai nommé Michael Matthews.
30 secondes, c'est l'écart qui sépare les trois hommes de tête de l'avant-garde du peloton avec évidemment toutes les équipes de sprinteurs qui se mettent à l'avant, mais tout le monde ne va pas passer la bosse, hein, Cyril, hein. Uniquement les, enfin peut-être vont-ils tous passer, mais ce serait étonnant.
Oh, dans les lampes, il ne faudra pas avoir les jambes molles dans cette ascension, hein. Donc on voit d'ailleurs Demar qui vient se replacer également dans l'optique du sprint. C'est vrai que les sprinters aux grosses cuisses sont quand même désavantagés dans ce type d'arrivée.
Alors est-ce qu'André Greipel est là? Peter Sagan est là pour sûr. Arnaud Demar, vous l'avez cité. John De Gendt Kolb est en sixième position depuis quelques kilomètres maintenant. Il est aux avant-postes. Il ne veut pas manquer le coup et il veut mobiliser ses troupes pour chasser derrière le trio tête. 5 kilomètres de l'arrivée, 27 secondes. Ça tient bon pour Cyril Gauthier, le costard mauricain de l'équipe Europe Car, accompagné de Wilco Kelderman et Thomas De Gendt pour l'Auto Jumbo et l'Auto Soudal.
Ah, c'est le patron de cette échappée, Cyril Gauthier. On le voit régulièrement relancer ses deux compagnons d'échappée, Lucho.
Oui. Bon, il y a 26 secondes, 25 secondes d'avance. De toute façon, maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. Il reste 4,5 km avant la ligne d'arrivée. Donc là, il faut vraiment se mettre à 100% de ses possibilités. Mais quand même, il y a 3-4 équipes qui roulent derrière, tombeau ouvert, et ça risque d'être très, très difficile. En plus, il va falloir arriver quand même bien placé au pied de la bosse pour les sprinters s'ils veulent vraiment gagner cette étape.
Et les favoris du classement général se sont également positionnés en tête de course pour éviter le moindre incident, la moindre chute, Fred.
Oui, ça roule vite depuis une vingtaine de kilomètres. On a vu des cassures se former il y a une quarantaine de kilomètres maintenant. Vigilance, on parlait d'une journée de transition aujourd'hui entre Muret et Rodez sur les routes surchauffées de l'Aveyron en ce moment. Il n'y a pas eu de transition aujourd'hui. Ça a beaucoup roulé en deuxième partie d'étape. 22 secondes à moins de 4 km de l'arrivée maintenant pour le trio Gauthier, De Gendt et Kelderman, et les MTN Kubeka qui roulent toujours avec le Sky Nicolas Roche en deuxième position. Roche qui travaille pour Christopher Froome, le maillot jaune. Froome est effectivement bien positionné aux alentours de la 15e place.
Et si Froome gagnait l'étape aujourd'hui, il est en bosse.
Arrête, s'il te plaît. Allez, 19 secondes, ça continue de se réduire, mais là effectivement on est dans une portion de route descendante, Fred.
Et c'est tout bon pour les échapper une portion descendante, ça veut dire que le peloton ne leur reprendra rien. Une descente qui va s'achever sous la banderole du dernier kilomètre, 3 kilomètres de l'arrivée, 19 secondes, faites vos jeux. Est-ce que Gauthier va enfin remporter un succès de prestige, lui champion, l'ancien champion d'Europe espoir, âgé désormais de 28 ans et demi. Il est accompagné de Kelderman, un hollandais de 24 ans qui découvre le tour, et l'expérimenté belge Thomas De Gendt, 19 secondes à 2 km 700 de l'arrivée.
Ouais, Cyril, dans la descente, l'écart ne varie quasiment pas. 18 secondes désormais, mais effectivement, il reste quand même assez constant dans la descente.
Oui, mais il baisse. Non, pratiquement, il n'a pas baissé depuis qu'on est rentré dans cette partie un peu plus descendante. Mais dès qu'on va revenir sur
sur du plat ou pratiquement du plat, le peloton, je pense, continuera à reprendre du temps. La 17 secondes à 2 km 300, ça n'est pas suffisant.
Ah, ça va être très très difficile pour nos trois hommes, enfin, et notamment pour Cyril Gauthier, le coureur de la formation Europcar. Europcar qui a besoin d'une victoire d'étape, qui a besoin de se montrer sur les routes de ce tour. Cyril Gauthier qui fait tout évidemment dans ce groupe de trois pour tenter de gagner la ligne d'arrivée avec quelques secondes d'avance, mais ça recommence à se réduire sérieusement, Fred.
Moins de 2 km à parcourir pour le trio de tête, Cyril Gauthier, Wilco Kelderman et Thomas De Gendt. Ces trois-là sont échappés depuis maintenant plus de 190 km sur les routes surchauffées du sud-ouest. Arrivé à Rodez, bientôt la flamme rouge pour les trois hommes de tête. À l'avant du peloton, eh bien, ce sont toujours les MTN de Boasson-Hagen, les Norvégiens, qui roulent fort. Crevaison à l'instant de Bauke Mollema, membre du top 10, le Hollandais de l'équipe Trek. Les Katyusha sont en train de rouler pour Alexander Christophe. Toutes les équipes de sprinters s'y mettent et l'avance est stabilisée à 10 secondes maintenant, à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée.
10 secondes d'avance pour nos trois hommes qui vont voir, lorsqu'ils vont se retourner dans quelques instants, qui vont voir l'avant-garde du peloton. Voilà, ils ont en ligne de mire, évidemment, là, c'est encore plus compliqué. 1 km 200 encore à parcourir.
Ah, c'est quasiment perdu parce que la rampe finale est beaucoup trop prononcée pour des coureurs râpés après plus de 190 km parcourus à l'avant. La flamme rouge du dernier kilomètre pour les trois hommes de tête.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Vont-ils réussir à garder quelques toutes petites secondes d'avance, ne serait-ce qu'un mètre, ce serait suffisant. Mais là, ça paraît mission impossible, Cyril.
Oui, non, là, c'est fini. Mission impossible. On va taper dans le dur. Ils sont quand même un petit peu secs. Ils sont partis, on le rappelle, au sixième kilomètre sous l'impulsion de Cyril Gauthier, alors qu'on va attaquer maintenant le dur.
Voilà, on attaque le dur puisque le peloton arrive maintenant quasiment sur les talons de nos trois hommes de tête. Le virage sur la droite, ils les ont en ligne de mire, Fred.
Début de la montée finale pour Thomas De Gendt, le Belge de l'équipe Lotto Soudal, dans sa roue. Wilco Kelderman et Cyril Gauthier qui s'accrochent en danseuse. Le lutin de l'équipe Europcar sera-t-il le sauveur de sa formation qui cherche toujours un repreneur? On est à 500 mètres de la ligne et les trois hommes de tête ont toujours 6 secondes d'avance. Derrière, ça rentre avec Thibaut Pinot qui a attaqué, me semble-t-il, incroyable, le coureur de la FDJ. Non, c'est pas lui, c'est Arnaud Démare qui lance le sprint de loin. Derrière, c'est Greg Van Avermaet, le Belge de l'équipe BMC, pris en chasse par Sagan. Ça y est, les échappés ont repris. Le maillot vert de Peter Sagan qui déborde tout le monde. Est-ce qu'il va tenir? Sagan qui vient de se repositionner dans la route Greg Van Avermaet. Sagan en deuxième position, pris en chasse par Bakkeland, c'est Degenkolb. Greg Van Avermaet toujours en tête. Est-ce qu'il va laisser passer Peter Sagan? Victoire ici dans quelques instants à Rodez de Greg Van Avermaet, le Belge de la formation BMC.
C'est pas fait, c'est pas gagné encore.
Il y a match entre Van Avermaet et Sagan. Sagan qui tente de passer sur la droite de la route à l'arraché. La victoire de Greg Van Avermaet.
Oh là là,
qui résiste à Peter Sagan. Quatrième, deuxième place pour le Slovaque qui va conforter son maillot vert. Mais il est maudit, Peter Sagan. Premier Van Avermaet, le Belge de l'équipe BMC. Deuxième, Peter Sagan. Et troisième, John Degenkolb. Le mano à mano dans la montée finale de Rodez a été splendide. Un coup à toi, un coup à moi. Van Avermaet, Sagan. Finalement, victoire du coureur belge de l'équipe BMC. Quelle finale!
Quelle finale incroyable! On a bien cru, Cyril, que Peter Sagan allait réussir à passer devant Van Avermaet. Il était dans sa roue et puis il a craqué dans les derniers mètres.
On avait vraiment l'impression qu'il était sur un plateau. Il suffisait tout simplement qu'il lève un petit peu le cul de la selle et ça allait passer sur les 50 derniers mètres où ça redescendait. En fait, il était complètement sec. Il était passé dans le rouge et il devait être à 15 de lactate. Hop, circuler. Il n'y a plus rien à voir. Et Van Avermaet, lui, il n'a pas craqué.
Le Belge.
Il est parti
s'impose.
Loin, Van Avermaet.
Hein. Ouais, il est parti de très loin et il s'impose donc d'un vélo devant Peter Sagan. Quatrième, deuxième place. C'est le Pouli d'Or de ce Tour de France 2015.
Oui,
Sagan.
Pouli d'Or qui était jusqu'à aujourd'hui ou presque l'un des surnoms de Greg Van Avermaet aussi, qui collectionne les places de deux. Et bien, cette fois, il a battu un autre maudit. Greg Van Avermaet, coureur belge de 30 ans. Spécialiste des classiques flandriennes ou même des classiques d'automne, il brille sur les routes d'octobre, vainqueur de Paris-Tours en 2011.
Pierre-Yves Leroux est en compagnie de l'un des héros du jour, Cyril Gauthier.
Pour dire les derniers 600 mètres, hein, fallait être costaud. Moi, on m'a vu, j'ai sauté quelques relais, même beaucoup dans la bosse avant, donc c'était un signe quand même, parce que je suis pas du genre à faire mon feignant. Donc voilà quoi.
Il y a encore de la déception. On l'imagine. À un moment, on s'est dit, ça y est, Cyril Gauthier va pouvoir l'accrocher celle-là.
Bah écoutez, je me suis retourné un petit peu. J'avais pas vu le paquet. Donc je me dis, c'est bon, je vais jouer avec eux. Ils étaient vraiment nerveux, plus que moi. Hein. C'est étonnant parce que moi je suis très nerveux. Mais plus que moi. Et je pensais quoi, que je me disais, quand il allait se rasseoir, bah, je pense que j'aurais essayé. Mais bon, j'ai vu Greg Van Avermaet passer à une vitesse et puis voilà, j'ai vu que c'était terminé. Il n'y a que la gagne qui compte.
Ouais. Vécu, là, on se dit plusieurs fois, tu as été échappé. Tu connais cette situation?
Bah ouais. J'ai pas encore la gagne, mais bon, le tour est pas fini. Comme j'ai dit déjà, j'ai pas les bonnes jambes comme l'année dernière. Mais bon, il suffit d'une journée et puis il y en a quelques-unes à venir.
Voilà la réaction de Cyril Gauthier, vous l'imaginez, la déception. Et puis quand il va apprendre en plus qu'il n'est pas le combatif du jour, ça sera peut-être encore un petit peu renforcé. On sait que Pierre Fédrigo n'avait pas apprécié il y a quelques jours de ne pas avoir été élu non plus combatif. Alors je crois que c'est lui qui a lancé l'échappée aujourd'hui.
Oui, les gens qui sont dans le jury ont du mal à donner des prix de la combativité au coureur français.
Oui, alors c'est qui
c'est Degen qui a...
Oui, mais Degen, j'ai l'impression qu'ils additionnent aussi les échappés.
Ils additionnent les échappés.
Je pense Degen a déjà fait quelques raids et donc il n'a peut-être pas eu la prime de la combativité parce que c'est pas ce que l'on suit le plus. Et donc à la sortie, il se dit attends, ça fait trois qui se fait rejoindre dans le final. Donc il y a une sorte de compensation.
Très bien, Pierre. Qui arrive derrière la ligne avec un nouveau
Christophe
client.
avec une image forte aussi qui va bien vous expliquer ce qui se passe pour les coureurs. Angelo Tulli qui s'est précipité vers le stand là où on distribue les bouteilles d'eau et qui a pris sa douche finalement avec les bouteilles. Angelo, tu me disais c'est le bon moment de la journée.
Ah ouais, il y a eu des moments aujourd'hui, c'était vraiment un four là. Il y aurait eu un ruisseau à l'arrivée, je me serais jeté dedans. C'est vrai qu'on manque de ravitaillement et d'eau dans ces étapes-là. Et on a vite la gorge sèche, il n'y avait pas trop d'air. Donc là, on est bien content d'arriver et de se verser une grande bouteille d'eau sur la gueule.
Tu as une idée du nombre de bidons que tu as pu récupérer pendant cette étape?
Pas assez. Mais je sais pas combien.
Et informé par les oreillettes de l'avancée devant, de l'échappée avec Cyril notamment?
Ouais. Bah, on a toujours les oreillettes qui fonctionnent par rapport à ça. Mais dans le final, on n'avait plus trop d'écart. C'est vrai que les voitures étaient un peu dispersées, je pense, et la réception marchait pas top. Mais on savait que Cyril était toujours à l'avant. Et je sais pas,
ça se joue. Ouais, ça se joue à 500 mètres finalement.
Bon, il doit être déçu, mais on a encore fait une belle étape. C'était encore une échappée qu'il fallait pas louper. On a encore réussi à être dedans, et surtout avec une bonne carte, parce qu'il arrive quand même pour la gagne. Il aurait pu se faire reprendre bien plus tôt. Donc non, satisfait quand même. Il y a juste une petite déception, je pense. Brian qui doit être un peu déçu de son sprint. Bah bon, c'est comme ça, hein. C'était vraiment à la cuisse, c'était vraiment dur, c'était pas du tout plat. Et je pense que c'était un petit peu trop dur pour lui, surtout vu les efforts qu'il avait fait pendant l'étape.
Merci beaucoup Angelo Tulik. Ouais. La chaleur, vous voyez, la douche à l'arrivée.
Angelo Tulik, le coéquipier de Cyril Gauthier, la formation Robcar, alors que Jean-Christophe Perrault, Pierre-Yves, va en terminer dans quelques instants. Il est à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Il a coupé complètement son effort. Il va terminer avec un autre coureur du peloton, Fred.
Avec Nathan Haas, l'un des coureurs échappés du jour. Nathan Haas, l'Australien, qui prête main forte à Jean-Christophe Perrault, au moins par sa présence. Perrault qui termine à 5 minutes 40 du vainqueur du jour. Greg Van Avermaet, Perrault meurtri dans sa chair, qui a lourdement chuté à un peu plus de 50 km de l'arrivée. Un tour galère pour le deuxième du tour l'an passé. Victoire aujourd'hui à Rodez au terme d'un mano à mano haletant du Belge Greg Van Avermaet, coureur de l'équipe BMC, âgé de 30 ans, vainqueur de Paris Tour en 2011, vainqueur de beaucoup de courses, d'une étape du Tour d'Espagne notamment en 2000. Je ne sais plus, c'était en 2012 me semble-t-il, vainqueur de course.
Et qui avait terminé troisième du dernier Paris-Roubaix aussi. Hein.
Oui, mais c'est le problème de Greg Van Avermaet. C'était le problème jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il avait remporté Paris-Tour en 2011, mais un peu comme Peter Sagan cette année sur le Tour de France, Van Avermaet est un coureur qui collectionne les places d'honneur. Deuxième du Etnios Blad l'an passé, deuxième du Tour des Flandres. cette année encore deuxième d'Estrade Bianche, troisième du Tour des Flandres, troisième de Paris-Roubaix, cinquième de l'Amstel. Certains suiveurs avaient même pris l'habitude de se moquer de Greg Van Avermaet, faire des jeux de mots sur sa faculté à enquiller les deuxième et troisième places. On ne le soupçonnait pas de se coucher devant les adversaires pour autant, mais tout de même c'était une réputation qui commençait à lui coller à la peau. Et bien Greg Van Avermaet, coéquipier de TJ Van Garderen, de Samuel Sanchez et des autres chez BMC, déjà vainqueur du contre-la-montre par équipe de Plumelec, il faut le rappeler, vient là de réaliser un sprint magnifique. Il devance d'un demi-vélo Peter Sagan, qui pourtant l'avait débordé à 30 mètres de la ligne d'arrivée. Et Greg Van Avermaet n'a pas baissé les bras, il a jeté son vélo. Quelle finale! C'était véritablement les deux hommes les plus forts du peloton qui se sont expliqués et qui ont franchi détaché la ligne d'arrivée. Un Van Avermaet, deux Sagan, trois Bakelands, un autre belge de l'équipage AG2R La Mondiale, quatre Degenkolb. Et puis regardez le tir groupé des favoris dans le top 10 du jour de l'étape. 6 Froome, 7 Nibali, 8 Contador, 9 Valverde. Il y avait vraiment une explication, un deuxième échelon entre favoris.
Et Quintana doit pas être loin derrière. Quintana qui est en ce moment sur les rouleaux, avec un soigneur qui tente de l'éventer un petit peu parce qu'il fait très chaud ici à Rodez, on vous le rappelle.
Il doit avoir l'habitude d'un Colombien. De degrés,
ouais. 6 Froome, 7 Nibali, 8 Contador, 9 Valverde, 10 Van Garderen, 11 Galopin.
Ils sont tous là.
12 Quintana, 13 Gesink et 14 Geraint Thomas. Tous étaient là effectivement dans la montée finale de Rodez qui a été le juge de paix aujourd'hui.
Alors deux grands battus aujourd'hui, Cyril, Peter Sagan, on va évidemment y revenir, quatrième, deuxième place, et puis Cyril Gauthier sur lequel on pensait peut-être qu'il serait capable de décrocher cette victoire d'étape, mais c'est trop descendu, l'écart est trop descendu dans le final et ils se sont fait avaler dans la montée. Dommage pour ce garçon qui tourne lui aussi autour d'une victoire d'étape sur les routes du Tour depuis tellement longtemps.
Oui, il réalise de beaux exploits dans de longues échappées, mais malheureusement ces échappées sont souvent rejointes dans le dernier kilomètre, et ce dernier kilomètre aujourd'hui il était terrible avec cette pente à plus de 10%. Ils étaient encore en tête à moins de 500 mètres de l'arrivée, mais vous savez quand les sprinters s'emballent derrière, la différence de vitesse passe du simple au double, et là même si vous avez encore 100 mètres vous vous faites enrhumer. C'est dommage, il a bien tenté, il y avait un coup à tenter aujourd'hui. La preuve c'est que cette échappée n'est rejointe que dans la phase finale. Et il est aussi souvent sorti dans le final, dans les 7, 8, 10 derniers kilomètres, et à chaque fois ça n'a pas voulu le faire. Que lui manque-t-il? Il lui manque peut-être ce petit côté instinctif du moment où il faut exactement sortir. C'est dommage.
Oui, les coureurs appellent ça les snipers du peloton, ceux qui sont capables de garder le sang-froid le plus tard possible et de dégainer comme était capable de le faire un Paolo Bettini par exemple à son époque, des coureurs qui n'ont pas peur de risquer de tout perdre et qui gagnent souvent du coup à ce jeu-là. Quelle étape encore, on parlait d'une étape de transition à la sortie des Pyrénées, coup de chapeau vraiment aux organisateurs du Tour de France qui et là on ne leur lèche pas les bottes pas le moins du monde, on est totalement objectif, positionner cette étape avec un final très vallonné et surtout une montée finale de Rodez aussi spectaculaire, ça nous gratifie à chaque fois d'un feu d'artifice en chaque fin d'étape. On se croirait sur le Tour d'Italie où il y a tout le temps du spectacle.
Ouais, la seule chose qu'on pourrait leur reprocher aux organisateurs, c'est d'avoir mis une telle chaleur.
Oui, mais ça d'ailleurs, ils paieront leur coup ce soir pour sûr.
Ouais, je t'ai posé la chaleur là aujourd'hui.
Je t'ai mis un peu de chaleur
parce que ça manquait de piment. Quoi. Ouais,
non, très belle course. On se régale sur ce Tour de France. Certains disent que Froome a plié le Tour, a tué le Tour, tout ce que vous voulez. La course cycliste au quotidien est sublime sur ce Tour.
7h41 sur RMC. Les réactions derrière la ligne avec Pierre-Yves Leroux qui est en train d'attendre Jean-Christophe Perrault, dont on vous rappelle qu'il a chuté tout à l'heure très lourdement. Il est vraiment ouvert de tous les côtés. Va-t-il poursuivre le Tour de France? Eh bien, c'est la question qu'on se pose ce soir. On y revient dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
La 13e étape du Tour de France a rendu son verdict. C'est un Belge qui s'impose ici à Rodez, un pur Flandrien, Greg Van Avermaet, qui a battu Peter Sagan, qui ne gagne plus, qui ne gagne pas sur les routes du Tour. Peter Sagan qui a la mine des mauvais jours là.
L'œil noir évidemment. 4 deuxième places pour Peter Sagan, qui depuis le début de sa carrière a remporté 4 étapes quand même, mais vient de décrocher sa 15e, deuxième place. Et cette année, en 2015, il en est désormais à 14 deuxième place. Donc 14 deuxième place sur le Tour depuis le début de sa carrière, 14 deuxième place depuis le début de la saison 2015. Il peut commencer à penser à se les mordre. Je ne sais pas s'il est assez souple pour ça, mais c'est sûr qu'il ne va pas apprécier. Et il y en a un autre qui ne va pas aimer du tout. C'est Oleg Tinkov qui rémunère le sprinter slovaque à prix d'or. Oleg Tinkov, l'oligarque russe milliardaire, propriétaire de l'équipe Tinkov, qui a mis quelques taquets à Sagan en début de saison.
On va tout de suite derrière la ligne, Pierre-Yves Leroux à côté de Vincent Lavenu, le manager de la formation de
exactement, on va pouvoir écouter sa première réaction, Vincent Lavenu qui vient d'aller voir Vincent Perrault, on va l'écouter.
Il y a, disons qu'il est, il est bien entamé, hein. Il est tombé très très vite, donc il a beaucoup de plaie, hein, assez profonde sur le coude, l'épaule. Voilà, bon, je pense qu'il a un petit doute au niveau de son petit doigt qui lui fait mal. Maintenant, bon, c'est un courageux, hein, il se plaint pas, hein, c'est un garçon très très courageux. Il a réussi à rentrer dans le peloton, à tenir pratiquement jusqu'à la fin avec des plaies de cette ampleur. C'était quand même presque un exploit aujourd'hui. Hein.
Est-ce que vous êtes inquiet et est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir repartir demain?
Ben écoutez, c'est le médecin qui va faire le constat, hein. Moi je suis pas médecin. Bon, la seule crainte c'est de savoir si le petit doigt est cassé ou pas. Il y a une petite crainte à ce niveau-là, mais c'est le médecin qui va regarder ça et qui vous en dira plus sûrement un peu plus tard.
Merci beaucoup.
Et Vincent, c'est son courage, le fait de repartir, c'est quand même signe d'un gros caractère.
Non, mais Jean-Christophe est un dur au mal incroyable. Il l'a prouvé l'année dernière pour aller chercher cette deuxième place. Et là, il le prouve encore dans d'autres circonstances, hein, qui ne sont pas favorables, bien sûr, mais c'est véritablement un dur au mal. Il faut donner un sacré coup de chapeau à ce type de champion. C'est un exemple pour les sportifs de haut niveau, oui.
Très bien, merci Pierre-Yves donc pour l'interview de Vincent Lavenu, le manager de la formation AG2R la mondiale, concernant Jean-Christophe Perrault, non pas Vincent Perrault comme l'a baptisé Pierre-Yves. C'est vrai que la chaleur sur un crâne complètement dégarni, ça commence à avoir des effets, évidemment. Rappelle pendant ce temps-là le résultat de cette 13e étape, Fred, avec la victoire d'un Flandrien. C'est pas vraiment un temps à mettre un Flandrien dehors aujourd'hui. Ils ont plutôt la boue, le froid, la pluie des classiques de printemps. Là, il fait 40 degrés, mais il est fort. Aujourd'hui, ouais, très fort.
C'était canicule sur Rodez et sur les routes de l'Aveyron, surchauffé. Un sprint final hyper spectaculaire. Une arrivée en bosse ici à Rodez. Le peloton a avalé les derniers échappés. Cyril Gauthier, Wilco Kelderman et Thomas De Gendt. À 300 mètres de la ligne d'arrivée, le sprint était déjà lancé par un homme, Greg Van Avermaet, comme disent ses compatriotes flamands, qui a résisté pendant 300 mètres d'un sprint haletant, un véritable mano à mano entre Van Avermaet de l'équipe BMC et Peter Sagan, le maillot vert de l'équipe Tinkoff Saxo, le Slovaque déjà vainqueur de 4 étapes sur le Tour de France depuis le début de sa carrière, mais qui fait fanny cette année, 4e, 2e place aujourd'hui pour Peter Sagan, qui en est à sa 15e deuxième place sur le Tour de France depuis le début de sa carrière. Van Avermaet devant Sagan, Bakelands, le Belge de AG2R La Mondiale, est 3e, Degenkolb 4. Sachez que Froome, Nibali, Contador, Van Garderen et Valverde sont tous dans le top 10 aujourd'hui.
Que tweets qui me parviennent de Jean-Marie notamment, qui nous dit: Pito Sagan, tu me dois 43,58€, j'avais misé sur cette arrivée parfaite pour toi, on va t'appeler Poulidor si ça continue. Choubouki qui nous dit: ce final tout pourri, se faire reprendre à 400 mètres après autant de travail, je reste à l'écoute parce que c'est vous, mais quand même, hein, déception évidemment, on espérait la victoire de Gauthier. Ou encore Adrien qu'on connaît bien à RMC, qui nous dit bel hommage de Sagan à Poulidor qui a remporté des étapes sur la route du Tour, mais qui lui n'a jamais porté le maillot jaune et jamais remporté le Tour de France. Allez, on va faire le récap des courses hippiques avec Laurent Guédard, me semble-t-il, aujourd'hui. Et ensuite, on revient pour la fin de ce tie-break. Laurent, c'est à toi. Bonsoir, Laurent.
Salut, Christophe. Je rappelle tout d'abord que le quintet est en nocturne à Cabourg. La favorite, c'est le 2 Agora à 3 contre 1. Et ma dernière minute, le 3 Alpine du Rib à 8 contre 1. Départ prévu 20h30. Demain, quintet sur l'hippodrome d'Anguin. Ils seront 16 trotteurs à s'élancer pour un voyage de 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et pour en savoir un petit peu plus sur cette course, Cédric Quietta de Génie Course m'a rejoint. Bonjour Cédric.
Bonsoir à tous.
Quels sont les bons bruits pour demain?
J'aime beaucoup le numéro 8, Van Acoleto, une jument qui est en pleine forme. En plus, elle sera associée à Jean-Michel Bazir, donc ce qui ne gâche rien. Maintenant, elle aura le numéro 8 à l'autostart. Mais bon, on va faire confiance au Schulte d'Or pour lui donner un bon parcours et faire l'arrivée.
Alors moi je vous propose tout d'abord le 4 Nantucket qui reste sur une bonne troisième place sur ce tracé alors qu'il partait en seconde ligne. Cette fois-ci il est mieux loti derrière l'autostart, il s'annonce redoutable même pour la victoire. J'aime beaucoup également le 10 Plutonio qui avait échoué de peu pour le succès le mois dernier derrière mon favori. Je vous rappelle que d'autres informations des paris sont disponibles sur rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Virginie Fulvin va prendre le relais normalement, elle doit être là.
Elle est là, tout à fait.
Très bien.
Avec beaucoup de Britanniques, hein, décidément, entre Chris Froome d'un côté et puis Andy Murray de l'autre. On va bien sûr continuer à suivre cette Coupe Davis, ce quart de finale Grande-Bretagne-France avec Eric Salio, avec Sarah Pitkowski également. Et puis le Tour de France avec Cyril Guimard, bien entendu. Et l'athlétisme aussi, on a beaucoup de direct aujourd'hui avec le meeting d'athlétisme de Monaco. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.